Donc, on est après la guerre, c'est la création du Festival d'Avignon par Jean Villers, qui démarre dans les années 47, hein, voilà, petit festival hein, initialement. Et en 1947-48, Jean Villers monte le CID à Avignon et il propose à Philippe le rôle de Rodrigue. Et Gérard donc refuse dans un premier temps parce qu'il pense que le rôle n'est pas fait pour lui, qu'il n'a pas le profil de l'emploi, dirait-on. Mais il voudrait pourtant vraiment devenir un acteur populaire. Il l'est déjà par les films, mais il voudrait avoir un contact direct avec le public populaire sur la scène. Et au final, il accepte le rôle pour le festival de 1951, le rôle de Rodrigue, que lui impose un peu donc Jean Villers. Et donc la veille de la première, l'anecdote est connue, c'est un incident grave qui se produit, accident, Gérard chute dans la fosse d'orchestre. Et donc ça n'est pas grave, il n'y a pas de blessure grave, mais il est condamné à l'immobilité. Donc on lui met un plâtre, il ne peut pas bouger. Alors, faut-il annuler le spectacle? C'est un autre choix qui est fait entre le réalisateur, enfin le metteur en scène et l'acteur. Eh bien, il va jouer, mais immobile. Ça sera une espèce de statue parlante. Alors, on aménage, comment dire, la mise en scène de façon à ce qu'il ait justement ne pas bouger ou le moins possible. On transporte au milieu de la scène, avant le lever du rideau, et donc, je l'ai dit, c'est une sorte, il est statique, mais il rambule les bras, la tête, et puis c'est sa voix qui part, et donc vibrante, et il va déclamer, n'est pas tout à fait dans le style de l'époque, enfin, il va ni réciter, mais il va exprimer avec ses tripes le monologue de Rodrigue. Alors, silence sur la place du Palais des Papes, dans cette nuit de Provence, un silence total, et à la fin, c'est un triomphe, voilà. Dès lors, il devient la mascotte, en quelque sorte, du Festival d'Avignon, et donc c'est, on dit sous ce titre un petit peu, le prince d'Avignon, voilà. Mais c'est la gloire, et bientôt, la troupe, qui a joué à Avignon devient pérenne, en quelque sorte une compagnie pérenne. C'est le TNP, le Théâtre National de Paris, qui va donc jouer à Suresnes et à Gennevilliers, s'installer avant son installation définitive au Palais de Chaillot. C'est la fin de la guerre, enfin c'est l'après-guerre, mais au Palais de Chaillot, c'est encore un siège, enfin où l'ONU occupe les locaux du Palais de Chaillot à l'époque, hein, voilà. Donc dès qu'il sera libre, le palais, le TNP s'y installe. Voilà. Et donc, il devient, par ce rôle, et par les autres, bien sûr, mais c'est à la fois un acteur, pas intellectuel, mais un acteur des grands rôles classiques, on va dire, mais aussi un peu intellectuel, hein, il joue Camus, il joue, etc., mais aussi un acteur très populaire, hein, genre ce que sera plus tard peut-être un peu Belmondo, quoi, voilà. Et il déclare, nous cherchons l'air pur dans un public neuf, il faut élargir l'audience du théâtre. Et le public répond, le public vient. Voilà. Et donc il fut, dit un critique de l'époque, Alfred Simon, le CID est image parfaite du CID, image parfaite dans le CID de la jeunesse, image de la jeunesse et de l'héroïsme pour toute cette génération de jeunes qui ont vécu la libération de Paris. Donc il interprète ce grand rôle, ce rôle phare, sa deuxième naissance, dit-il. Et puis autre rôle, alors très populaire, j'ai dit, un peu dans le style de Scrum, par exemple Belmondo notamment, il joue Fanfan la Tulipe au cinéma, hein, on le sait, avec je crois pas me tromper, Gina Lolo Brigida, je crois pas, voilà. Et là il devient, par ce rôle de Fanfan la Tulipe de Christian Jacques, hein, réalisateur, il devient là une icône internationale, hein. Aux quatre coins de la planète on joue dans les cinémas, Fanfan la Tulipe. Les Japonais l'appellent le samouraï du printemps. Voilà. Donc, carrière explosive, carrière, c'est un feu d'artifice. Autre rôle, la chartreuse de Parme, donc à Rome, aux côtés de Maria Cazares. Et puis avec, enfin je vous donnerai des citations là, de, qui définissent, enfin qui font le portrait de Gérard Philipe, notamment de Marc Allégré, puis de ses camarades de théâtre et de cinéma. Autre rôle, Les Orgueilleux, avec Michel Morgan, d'Yves Allégré. Voilà. Alors dans sa vie privée, il épouse Marie-Nicole Naveau. Qui gardera son prénom Dan. Alors là c'est un mariage à la fois d'amour et de raison, si on peut dire. Elle est née en 1917, donc c'est tout à fait une jeune fille, elle a 34 ans. Elle va divorcer de son premier époux, François Fourcade, qui est un sinologue. Et donc ils se rencontrent dans la propriété des Fourcades dans les Pyrénées, à Guchéa dans les Pyrénées, et elle va divorcer après deux séjours en Chine en 1949 et donc épouser, ça sera l'épouse, un bon mariage, on va dire, peut-être rare dans le milieu des comédiens, un mariage solide, voilà. Et il se marie le 29 novembre 1951 et s'installe à Neuilly. Et donc elle s'appellera Anne. Et non plus Nicole. Et comme Philippe, je vais dire une toute petite anecdote, le nom de famille c'était Philippe avec un P à la fin, et il ajoute un E dès le début de sa carrière, à l'initiative de sa mère qui est très superstitieuse, pour que Gérard et Philippe, ça fasse 12 lettres, 13 lettres au total, voilà. C'est un chiffre 13 porte-bonheur. Voilà. Et donc, il sera aussi acteur génial, acteur populaire, grand acteur des grands rôles, du grand répertoire. Là, il aura une vie privée très paisible. Il aura deux fils, hein, il aura plutôt un fils et une fille. Hein, voilà. Et il va aussi s'engager. Ça sera un homme engagé, un artiste engagé. Nous y revenons après la pause musicale.